Bonjour à toutes et à tous, donc on est sur Radio Galère et aujourd'hui c'est la CGT qui parle à la radio, donc on est le comité PEP, donc des travailleurs privés d'emploi et précaires, CGT. Nous on est le comité, donc moi je m'appelle Chloé, il y a Nouran qui est à côté de moi, qui fait partie du comité et qui fait partie aussi du collectif Box. Si tu veux présenter un mot, Nouran, sur le collectif Box.
C'est un collectif de boxeurs et de boxeuses surtout. Et c'est des cours, c'est des exhibitions, gratuites. Les cours aussi sont ouverts à quiconque aime ce sport et veut en faire, voilà.
Il y a une démarche aussi qui est militante aussi derrière ce collectif box.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est de rester conscient des... des politiques autour de nous et de comment elles influent sur la vie des gens. Et du coup, on est. J'imagine que ceux qui. Enfin, la plupart ont un engagement, quoi, politique.
Et c'est aussi de parler aux personnes aussi qui sont invisibles, qui sont précaires.
Ouais.
Comme les personnes sans papier, par exemple.
Ouais. Et ouais, et de voir. Voilà comment l'économie et la politique, justement, elles influent. C'est ça, la vie des gens et leur parcours. Et le sport, ça peut être un bon
outil.
Défouloir. Ouais.
Un outil aussi pour parler aux personnes qui sont les plus défavorisées, les plus invisibles.
Ouais, c'est ça.
D'aller chercher aussi ces personnes-là et aussi de parler à des personnes qui ne sont pas forcément représentées dans le reste du sport, en fait. Comme les femmes aussi.
Ouais.
Donc du coup, en fait, ce collectif Box, il est rattaché, il est en lien aussi avec le comité chômeur. C'est pour ça qu'on expliquait ce que c'était. Le comité des travailleurs privés d'emploi, c'est un comité donc où on est au chômage pour la plupart. Donc on a été privés d'emploi. On aura l'occasion de revenir sur ça plus tard. Nous, notre activité, donc on est rattaché sur Marseille, on est rattaché dans toute la France, hein, mais là, localement, on est rattaché sur Marseille. Le comité dans lequel nous, on est, Nouran et moi, c'est le comité de l'Union locale Marseille-Centre,
ouais.
55 rue Saint-Ferréol. Et notre objectif, c'est d'organiser en fait les chômeurs, mais pas que, les personnes aussi qui sont précaires dans la lutte, qui sont isolées aussi dans leur travail. Personnes qui sont invisibles, qui sont surexploitées par le système capitaliste. Et c'est de lutter au quotidien. Notre activité, c'est d'aller informer les personnes à Pôle emploi de leurs droits, donc devant les Pôle emploi, d'aller diffuser des tracts. C'est de faire des actions de part et d'autre. C'est aussi d'être présent aussi et d'être dans l'activité au sein du mouvement social actuel contre la réforme des retraites. Car on aura l'occasion de voir aussi qu'il y a pas mal de choses aussi qui se rejoignent. Et l'un de nos objectifs premiers de ces dernières années, c'est aussi de dénoncer et de lutter contre la mise à mort de l'assurance chômage. Il faut savoir que cette dernière, comme l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, qui ont été des conquêtes sociales arrachées au patronat, créées pour une protection sociale quand on a été privé d'emploi. Donc ça a été créé fin des années 58, en 1958. Et le gouvernement Macron actuellement a lancé en juillet 2019 une contre-réforme, donc une réforme qui met à mort l'assurance chômage. Donc cette réforme, elle se décline en deux temps. La première, ça a été le 1er novembre 2019. Donc c'est un véritable... Déjà, le gouvernement compte faire 4 milliards d'euros d'économies d'ici 2021 sur le dos des travailleurs privés d'emploi. Ça est un véritable hold-up qui se rajoute à la dernière réforme de l'assurance chômage de 2017. La conséquence de cette réforme, c'est de conduire les travailleurs les plus fragiles dans une précarité extrême. Il faut savoir que la première phase de la réforme du 1er novembre 2019, ça durcit les conditions d'accès, d'ouverture des droits à Pôle emploi. C'est un véritable contrôle sur les chômeuses et les chômeurs. Actuellement, pour percevoir, en fait, enfin avant, pour percevoir une indemnisation chômage, les privés d'emploi en fait devaient avoir travaillé 4 mois sur les 28 mois précédant la fin de leur contrat de travail. Il faudra maintenant, dorénavant, il faudra avoir travaillé 6 mois sur 24 mois. Cette réforme, en fait, elle répond au véritable objectif du patronat. Donc faire les poches des salariés et les faire travailler avec des salaires de misère et des conditions de travail infernales. En plus, il y a toute une idéologie hein, derrière les chômeurs hein, que le gouvernement véhicule, bien entendu. C'est celle de discriminer, de faire culpabiliser les chômeurs en disant que ce sont des feignants, des assistés, alors qu'on sait qu'à l'heure actuelle, le marché de l'emploi est très difficile. Et en pleine contestation sociale en plus à l'heure actuelle contre la réforme des retraites, le gouvernement il a tenté un nouvel enfumage en se félicitant d'une baisse du chômage de 3,3% en 2019. Forcément, quand des milliers de personnes en fait se font radier, bah forcément il y a une baisse du chômage dans les statistiques de Pôle Emploi. Mais la baisse du nombre de demandeurs d'emploi, c'est pas donc le résultat d'une guerre menée contre le chômage, mais c'est celui d'une guerre menée contre les chômeurs. Et en plus. Dernièrement, il y a eu des récentes études au sein de la CGT, au sein avec le comité des privés d'emploi et précaires, qui ont fait des études notamment en Île-de-France et à Lyon l'an dernier, et qui ont montré en fait que Pôle emploi ne respecte même pas sa première mission, puisque pratiquement 50% des offres sont illégales. Et d'ailleurs, à ce sujet, on fera une journée d'études le 20 mars, donc si ça, cela vous intéresse, donc pour voir si les offres sont illégales dans la région... Enfin, dans la région PACA. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, on vous invite à nous y rejoindre. Mais il faut voir aussi que malgré ces attaques, bah, la lutte collective, elle s'organise partout. Nous, il n'y a pas longtemps, on a envahi le conseil régional, hein, donc c'est la direction du conseil régional de Pôle emploi. Donc on était une centaine à peu près, donc il y avait le comité des privés d'emploi et précaires CGT, il y avait une intersyndicale CGT, et puis il y avait aussi les précaires des terres, c'est une qui s'organise en fait depuis la mobilisation en pleine lutte sociale contre les retraites.
Et on était tous et toutes aux ACEDIC.
Voilà,
ouais. On a mis l'ambiance.
Et donc du coup on est intervenu dans ce direction régionale. Pour déposer en fait des dossiers que Pôle emploi avait radiés, qu'ils ne voulaient plus gérer tout simplement.
Ouais, et donc les personnes n'avaient plus d'argent, elles n'avaient plus leurs indemnités.
Voilà. Et donc
souvent des ruptures de ressources.
Ruptures de ressources, ouais. Tout à fait. Et donc du coup ça a été on a quand même une majorité de dossiers qui ont été gagnés, arrachés par la victoire, et ça montre que c'est que par la lutte.
Par
en
l'occupation.
Fait. À l'occupation, voilà, ouais. On a occupé pratiquement 3 heures.
Et par la lutte collective, ouais, parce qu'on leur a mis la pression collectivement, donc c'est ça. Ça paye.
Et ça paye, voilà, seule la lutte paye, et du coup, c'est pour ça qu'on on défend la lutte, quoi qu'il arrive. Je vais juste parler un petit mot quand même sur la question de la réforme des retraites, du moment actuel, après on aura l'occasion de parler un peu plus en profondeur de certaines choses. Donc, comme vous le savez, hein, toutes et tous certainement, il y a le gouvernement, il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques mois, qui a lancé la réforme des retraites, qui est une contre-réforme sociale, bien évidemment. D'ailleurs, la lutte contre la réforme de l'assurance chômage hein, s'inscrit pleinement dans cette bataille inédite, dans cette lutte inédite dans laquelle nous sommes depuis le 5 décembre. Il faut savoir que cette contre-réforme des retraites, elle ne consiste pas seulement à affaiblir nos régimes de retraite solidaires par répartition. Il s'agit cette fois de les détruire par l'instauration d'un régime universel par points. Et ce n'est qu'une énième attaque supplémentaire depuis la création de la sécurité sociale en 1945, qui a été arrachée par les organisations ouvrières issues de la résistance. Ça, c'est une date historique importante et c'est une approche politique et idéologique fondamentale à comprendre. Car c'est, comme on disait il y a 2 minutes, c'est par la lutte qu'on arrive à arracher les victoires. Et ça a été une des plus grosses victoires historiques que le mouvement ouvrier a arraché contre le patronat.
De l'idée de la commune.
L'idée de la commune, un système de solidaire où c'est les travailleurs et travailleuses en fait, qui cotisent avec leur salaire, qui cotisent en fait, les sous pour financer en fait, un certain nombre de services.
Tout à fait.
Et nous, on revendique également...
C'est même cette solidarité qui a permis à la médecine même de se développer
tout à fait.
Par ailleurs.
Tout à fait.
Et à la science d'évoluer. Enfin,
exactement.
Voilà. Donc.
Exactement, et c'était et ce qu'on revendique bien évidemment à CGT, on lutte aussi pour que cette sécurité sociale, elle soit contrôlée et gérée par les travailleurs et travailleuses, et non pas par le patronat.
C'est un progrès social
qu'il faut défendre à tout prix. Et ce n'est pas le laisser filer en fait dans les mains du patronat. Donc forcément, hein, donc patronat et les gouvernements successifs à sa botte, hein, puisqu'il n'y a pas de gouvernement qui n'est pas au service du patronat, hein, tente d'affaiblir et puis de remettre en question ce régime par répartition. Donc pour mettre la main sur le salaire socialisé, hein, ça les rend fous de voir des sous qui n'auront s'évaporer dans les mains des travailleurs et travailleuses et qui sur lesquels ils n'ont aucun contrôle.
Tout à fait. Et finalement, ils essayent d'avoir du contrôle dessus en supprimant... Des rentrées d'argent de la sécurité sociale. On le dit souvent, on nous parle souvent de la dette de la Sécu et comme quoi voilà, elle serait creusée par les bénéficiaires, alors qu'elle est creusée par des décisions qui la mettent à mal, notamment voilà, la CSG. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour qu'il y ait moins d'argent dans ces caisses et que du coup ben, ça tourne moins bien.
Tout à fait. Et d'ailleurs, hein, y a tout un poids, enfin, il y a tout un vocabulaire qui est dominant, hein, qu'on combat. Hein, quand on parle de charge patronale, c'est assez hallucinant. Hein, on évoque quelque chose qui est lourd, alors que, en fait, ce sont des cotisations. Voilà. Et il faut voir que la lutte qui est menée depuis le 5 décembre montre que le mouvement ouvrier, en tout cas, il est toujours dans le combat. Et en recomposition, malgré bah, les coups de fouet en fait, qu'on subit depuis des décennies. Mais il y a aussi une vraie question, c'est que ce mouvement, il met en lumière une vraie question, une vraie problématique, hein, celle de comment mobiliser les salariés les plus précaires. La précarisation, hein, l'éclatement des entreprises, sous-traitance, etc., bah, ça rend difficile la lutte, l'organisation collective.
L'isolement,
c'est ça, travailleurs, travailleuses, et puis même la question de l'intérim aussi, hein, on a de plus en plus une exposée aussi des travailleurs et travailleuses intérimaires, et ça les rend isolés face à leur patron, ça s'accompagne aussi d'une baisse forcément collective, une faiblesse de la conscience collective de l'organisation aussi, masse, hein. Et du coup, c'est là où aussi, nous, le comité, on pense qu'on a aussi un rôle à jouer, hein, c'est de mobiliser, c'est aussi d'organiser collectivement aussi ces salariés, ces travailleurs et travailleuses qui sont isolés face à leurs patrons dans les petites entreprises, qui sont seuls. Voilà. Du coup, on va revenir quand même sur quelque chose par rapport à la réforme de l'assurance chômage, qui est les personnes en fait, qui vont être le plus touchées. Bah, ce sont les femmes. Nourane va nous dire un mot sur la question de la précarité chez les femmes. Parce que, comme vous le savez, on est la semaine du 8 mars, qui est Journée internationale des droits des femmes. Donc notre objectif aussi aujourd'hui, c'est quand même parler de cette journée et parler aussi de la question des femmes. Nourane, si tu veux parler...
Par où commencer ? C'est une large question. C'est vrai que les femmes sont principalement, on trouve des chiffres où les femmes représentent une part très importante des travailleurs, des travailleurs et travailleuses pauvres, ou en tout cas qu'elles sont 82% par exemple des salariés à temps partiel. 63% des salariés payés au SMIC sont des femmes. Elles connaissent des périodes plus longues de pauvreté ou de non-emploi ou de temps partiel. Et ce qui fait que, évidemment, elles vont avoir des salaires plus bas et des retraites également plus basses. Les inégalités qui vont s'accroître avec la réforme de la retraite du gouvernement, c'est que il y aura 40% de pension de retraite en moins pour les femmes et un tiers des retraités qui touchent une pension inférieure à 700 euros seront pénalisés encore plus, sachant que ce sont souvent des femmes, puisque le travail n'étant pas, enfin le travail familial et le rôle social familial qu'elles jouent en étant notamment les principales aidantes familiales, enfin aidants familiaux, c'est mais ou même le fait d'élever une famille, tout un travail qui n'est pas considéré comme tel. Quand elles investissent même dans la famille, elles se retrouvent beaucoup plus exposées à la pauvreté. Voilà. Mais du coup, nous, on a été. Je sais pas.
Tu veux que je reprenne
un petit peu, ouais.
Bah, du coup, en attendant que. En attendant que tu expliques d'autres choses, par rapport à cette question du 8 mars, bah, il est important de rappeler, donc c'est dimanche, il est important quand même de rappeler l'aspect historique du 8 mars, le contexte historique dans lequel le 8 mars est né. C'est une figure allemande du féminisme, ce qu'on appelle le féminisme marxiste, hein, Clara Zetkin, qui fit adopter une résolution dans les années 1910. C'était dans un cadre où les femmes, dans un contexte où les femmes n'avaient pas le droit au vote, et elle demandait à ce que elle revendiquait, elle luttait pour que les femmes aient le droit au vote, en précisant que le droit au vote n'était pas un but en soi, mais qu'il s'agissait d'un moyen de renforcer, grâce à la présence des travailleuses et des ouvrières la lutte contre le capitalisme et contre la propriété privée. Et à la suite, en fait, en février 1917, il y a eu en Russie une grève des ouvrières du textile, hein. C'était une période où il y a eu pas mal de grèves d'ouvriers et d'ouvrières jusqu'en 1917. Et ça, c'était donc en février 17. Et ça a été une grève d'ouvrières de textile dans un quartier de Saint-Pétersbourg qui a entraîné en fait une série de d'autres grèves, de d'autres luttes, notamment les métallos d'usines voisines qui se sont mis aussi en grève. Donc c'était contre leurs conditions de travail, contre l'exploitation capitaliste patronale. Et donc, comme on le sait toutes et tous, ça a entraîné la révolution russe, renversement du tsar, du régime du tsar, et puis la révolution soviétique. Et en 1921, c'est Lénine et Kollontai, qui étaient une figure de la révolution russe. Kollontai, une grande féministe d'ailleurs, c'est vraiment une référence historique à lire. Le féminisme, ça n'a pas été créé hier, hein, ça a été ces femmes-là qui se sont battues et qui ont, il y a un siècle, qui ont théorisé, qui ont commencé aussi à théoriser le féminisme. Et ça a été donc Lénine et Kollontai en 1921 qui ont proclamé la Journée internationale des droits des femmes en lien, en hommage à cette grève des femmes de Saint-Pétersbourg. Donc c'était en février 17 selon le calendrier de la Russie, puis ça correspond au mois de mars chez nous. Voilà, donc ça c'est quand même un aspect historique important à rappeler pour montrer d'une que c'est pas venu de nulle part, c'est pas tombé du ciel, cette Journée internationale des droits des femmes, que c'est venu dans un contexte historique bien précis. Et aussi rappeler que la lutte des femmes contre leur exploitation, contre leur oppression, ne date pas non plus d'hier. Ça, c'était historique. Et puis, bien évidemment, le capitalisme, hein, parce que nous, on est position très claire contre le capitalisme. Le capitalisme a dans son intérêt de masquer, d'invisibiliser
ces luttes ouvrières. Tout à fait. Voilà. Pour appauvrir
et puis pour masquer toutes ces luttes-là et encore plus invisibiliser les travailleuses et les femmes.
Et nous sommes même contre un féminisme libéral capitaliste.
Tout à fait.
Ouais.
Bah, en parlant justement de capitalisme et de féminisme libéral, on peut refaire aussi, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, hein, depuis quelques années, on assiste à des grands discours de la part du gouvernement Macron, de la part du gouvernement d'avant, sachant que ces gouvernements sont au service des riches, hein, de la bourgeoisie, du capital. Il faut paraître en montrant qu'ils défendent la question des femmes, l'égalité femmes-hommes, blablabla, en créant un secrétariat,
d'égalité homme-femme,
avec Marlène Schiappa en tant que secrétaire de ce secrétariat, ce qui est quand même assez hypocrite hein, quand on voit toutes les réformes en place, toutes les réformes successives, les politiques d'austérité qui touchent le plus les femmes. Noorane, est-ce que tu veux rebondir justement sur ça?
Oui, ben, tout à l'heure, donc, c'était l'idée de parler du fait que les femmes, ben, voilà, les mamans, les tantes, celles qui s'occupent des autres, finalement, elles se retrouvent le plus exposées à la pauvreté dans leur, au moment de la retraite ou au moment où du veuvage, où elles se retrouvent seules. Du coup, voilà, c'est dire ça, dire que ça va continuer, que ça s'accentue. Que voilà, c'est un état où, où maintenant bah, on est obligé de travailler, les deux sont obligés de travailler, la femme aussi, le travail participe de son émancipation, mais il y a une exploitation toujours double parce que du coup on reconnaît pas non plus sa fonction voilà de son tout le travail gratuit domestique qui est produit et toujours principalement par les femmes et qu'elle sert donc par ce travail gratuit et le travail salarié en plus voilà bon ça s'est rappelé et puis se mettre aussi du côté de l'intersectionnalité aussi, de dire que les doubles peines voilà, entre des inégalités qui préexistent déjà, entre immigrés par exemple, ou certaines catégories d'immigrés descendants aussi, et le fait d'appartenir à des catégories les plus pauvre, enfin tout ça s'accumule quoi, donc parler de l'intersectionnalité c'est important aussi, que les attaques contre les femmes qui se jouent dans les médias ont été celles contre des femmes qui portaient le voile par exemple, qui sont d'un écran de fumée qui sert aussi des logiques libérales pour pas qu'on parle finalement de l'économie et qu'on ait des lectures qui soient voilà
qui soient parler de tout ça effectivement c'est important et même rappeler aussi une origine aussi l'origine en fait de l'exploitation de la femme hein, de l'oppression de la femme qui est le capitalisme. Il faut comprendre qu'il a besoin de se maintenir et de se reproduire à travers des générations futures. La famille d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la forme sociale la plus spécifique hein, à travers laquelle ce renouvellement s'opère. Et les femmes travailleuses, hein, pas les femmes issues de la bourgeoisie, hein, pas issues de la classe capitaliste, mais les femmes prolétariennes, travailleuses, hein, donc c'est, à l'heure actuelle, c'est nous toutes, hein, c'est des infirmières, c'est des assistantes sociales, c'est des aides à domicile, c'est des profs, c'est des ouvrières dans le commerce, c'est des caissières, c'est l'ensemble de ces femmes-là. Elles sont en charge en fait de l'entretien et du renouvellement en fait d'une force indispensable au fonctionnement de la société. Hein. C'est donc la classe ouvrière. C'est celle qui va faire de la main d'œuvre. Il est important aussi quand même aussi de souligner parce que ça c'est vraiment des discours en fait biologiques et essentialisants qu'on retrouve souvent dans le discours dominant, dans le discours capitaliste, c'est que l'oppression de la femme sous le capitalisme n'est pas déterminée par sa biologie en elle-même, pas par sa capacité à mettre des enfants, mais par la dépendance du capitalisme pour la reproduction de la classe ouvrière. C'est le positionnement en fait du capitalisme envers sa fonction spécifique qui est biologique. Non, ça, c'est important de ne pas tomber aussi dans le piège de la naturalisation aussi du discours. Ouais. Et donc voilà. Ça, c'est vraiment la base en fait de la question de l'exploitation, de l'oppression de la femme. Et aussi en période, il faut le dire à l'heure actuelle aussi, en période de crise du capitalisme, hein, parce qu'on est en crise hein, depuis des années, on repart là dans une crise qui va être encore plus importante que dans les autres, qui va être plus importante que les autres. Donc la crise du capitalisme a de graves répercussions sur les conditions de vie des femmes. Et les politiques d'austérité, donc, hein, comme la réforme des retraites, comme la réforme de l'assurance chômage, entraînent en fait des coupes budgétaires, entraînent donc ce que disait Nouran tout à l'heure, hein, fermeture de crèches, de garderies, absence, donc on, également aussi suppression de postes dans la fonction publique, hein, alors que ce sont majoritairement des femmes, parce que 60%, plus de 60% des salariés, des fonctionnaires sont des femmes, donc ça a un impact direct en fait sur la vie des femmes. En tant que travailleuse et en tant que femme. L'absence, donc, insuffisance de structures publiques d'accueil petite enfance, oblige ces dernières à assurer une double journée de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose, la chose principale, centrale dans la question de l'oppression de la femme, c'est vraiment l'exploitation capitaliste. On ne peut pas imaginer une lutte pour l'émancipation des femmes sans une lutte contre le capitalisme, sans une lutte contre l'exploitation. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est le gouvernement au service du capitalisme qui ne va pas parler de ça et qui sépare. C'est le combat contre les violences et sur la question économique. Ça, c'est vraiment un discours qui est réactionnaire. Nous, il faut vraiment qu'on défende l'articulation. À l'heure actuelle, c'est vrai que depuis des années, il y a réellement une lutte, une prise de parole des femmes sur la question des violences, ce qu'on appelle ces violences sexistes, sexuelles, sur la question des violences conjugales.
De larges campagnes.
Et repris.
Et on est toujours dedans avec Polanski, tranquille, qui reçoit son César.
Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que on est vraiment dedans, mais il faut comprendre que les violences, elles ont aussi un rôle pour le système capitaliste, dans la domination de la femme. Elles ont un rôle pour asservir les femmes. Toute la culture du viol, tous les processus qui sont totalement institutionnalisés, qui sont ancrés dans nos mœurs, hein, qui sont dus à la culture, aux codes sociaux, au code patriarcat, hein, du patriarcat, ça sert au capitalisme à maintenir une subordination sur les femmes.
Tout comme le racisme sert de justificatif aussi économique. L'esclavage. Comment on exploite, on trouve des fausses idées comme ça, mais finalement, le fond de l'action, elle est d'exploiter. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Donc,
Tout à fait, d'exploitation et de
dominer, sa force de travail.
Pour diviser aussi les travailleurs et travailleuses entre eux, sur des bases de racisme, sur des bases de
sexisme,
etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... ces violences-là, quand on entend le gouvernement qui veut, soi-disant, y mettre fin, c'est faux. C'est faux parce que le patronat, il a besoin de ça. Le capitalisme a besoin de ça. Et de toute façon, c'est pas en supprimant, en cassant les services publics qu'on va lutter contre les violences faites aux femmes. C'est pas en mettant des femmes au RSA, c'est pas en mettant des femmes au chômage, c'est pas en appauvrissant les femmes que les femmes vont pouvoir lutter contre leurs violences, contre les violences qu'elles subissent au foyer, dans le foyer privé. Ce n'est pas ça ce qui va faire que les femmes. Une des premières conditions pour que les femmes, quand elles sont victimes de violences conjugales ou autres, s'extraient de ça, c'est l'indépendance économique. Et ça, ce qui est clair, c'est que les récentes réformes, toutes les contre-réformes sociales, elles vont à l'encontre de cela. Donc, faut pas tomber dans le piège qui est de croire que le gouvernement lutte pour l'émancipation de la femme, lutte pour l'égalité femmes-hommes. Et même, il y avait une récente loi en 2014 qui visait à condamner les entreprises, qui a été revue par Macron quand il est arrivé au pouvoir, qui vise à condamner les entreprises quand il y a du sexisme au sein de l'entreprise. Quand on voit qu'il y a 0,2% des entreprises qui sont condamnées, on voit bien que ce n'est pas du tout leur problème, qu'ils n'en ont rien à foutre, vraiment. Ce n'est pas d'ailleurs en détruisant le code du travail et en détruisant les conditions de travail des inspecteurs du travail et même le métier en lui-même, parce que ce sont eux qui examinent aussi les dossiers quand il y a des violences au travail, quand il y a des plaintes, etc., qu'on lutte contre les violences aussi faites aux femmes au travail, dans le monde du travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre, qui est fondamental à avoir. L'indépendance économique, c'est une des premières conditions pour l'émancipation de la femme. Et puis après, c'est la lutte contre sa propre exploitation et contre l'exploitation capitaliste. Nourane, tu veux rajouter quelque chose ?
Non.
Il y a...
Qu'est-ce que tu veux dire ?
La place des femmes et des travailleuses actuellement, elle est vraiment dans la rue, elle est vraiment dans le mouvement de lutte actuel contre les retraites. Parce que de toute façon, ce moment-là, la réforme des retraites, elle est liée au reste. Hein. Si on gagne sur ce moment-là, on gagnera aussi sur le reste. Ils reculeront sur la réforme de l'assurance chômage qui doit passer dans très peu de temps, dans un mois, le 1er avril. Ils reculeront sur tout le reste. Donc ça, c'est vraiment important à voir. Il ne faut pas dissocier femmes et travailleuses. Il faut articuler les deux en permanence. D'autant plus que... Voilà, ça c'était pour un peu parler de la question du 8 mars. Je vais quand même revenir sur un aspect. Je reviens, hein, on fait un peu des allers-retours sur un aspect de l'assurance chômage qui va bientôt passer. Donc le projet de Macron, hein, c'est d'exclure les travailleurs privés d'emploi et précaires de la protection sociale. Il faut savoir qu'avec la réforme actuelle des retraites et la réforme de l'assurance chômage, ce sont près de 5,5 millions de travailleurs, travailleuses qui plongeront immédiatement dans la misère du minima social unique. Hein. Parce qu'en avril, le gouvernement veut mettre en place le RUA, qui est Revenu Universel d'Activité. Donc en fait, c'est une fusion entre tous les minima sociaux, APL, RSA, l'AAH, et il veut imposer en fait une assurance sociale qui est socle, un revenu universel financé par nos impôts. Donc c'est l'État hein, qui contrôle en fait ce revenu. Et faut qu'on comprenne que quand l'État contrôle tous ces services-là, c'est une casse de notre sécurité sociale. Hein, il privatise notre sécurité sociale. Voilà, donc on revendique l'existence, même, nous disons même que l'existence en fait, à la base des minima sociaux tels que le RSA, c'est une attaque contre la sécurité sociale. Car ça ne permet pas aux travailleurs de vivre dignement. Et à partir du moment où c'est l'État qui contrôle en fait, ces minima sociaux, ces revenus, en fait, c'est l'État hein, qui est au service du patronat, a forcément plus la main mise sur leur régulation. Hein, ils ont beaucoup plus le pouvoir de faire baisser. On le voit avec l'assurance chômage. En 2017, l'assurance chômage est passée sous le contrôle de l'État. Un an après, il y a une réforme avec 4 milliards d'économies. Et c'est nous hein, qui perdons. Donc, nous revendiquons au comité, à la CGT, reconquérir la sécurité sociale hein, qu'on a arrachée au patronat en 1945, hein, comme on le disait tout à l'heure. Son objectif, hein, l'objectif propre de la sécurité sociale, c'est de répondre aux besoins sociaux des travailleurs quand ils ne sont pas au travail, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont privés d'emploi, soit parce que des femmes sont en congé maternité, et par le maintien du salaire. Les cotisations ne sont pas des charges. Elles sont le levier qui ferme les portes à la misère. Donc nous, on revendique une sécurité sociale intégrale, 100% des travailleurs qui indemnise 100% des travailleurs privés d'emploi, 100% des risques couverts, 100% de l'ancien salaire maintenu.
Tout à l'heure, tu m'as tendu la parole, je ne l'ai pas prise parce que j'étais sur mon téléphone, mais effectivement, ce qu'il faudrait peut-être ajouter aussi, c'est c'est de parler de toutes ces maladies professionnelles aussi, parce que c'est des métiers qui sont faits par les femmes et qu'on parle aussi de l'effet du travail sur le corps et les corps et dire que c'est dans les métiers les moins considérés qu'en plus on le paye de sa santé telle la répétition de porter des charges lourdes voilà les assistantes maternelles les caissières qui portent des charges à répétition et finalement qui payent du prix et qui sont pas voilà il y a toute une lutte avec les administrations qui est impossible et de la non reconnaissance et voilà et puis là, il faut défendre des politiques qui soient de progrès, pour tous, de justice sociale, d'idéaux.
La bataille pour les femmes aussi, c'est aussi reconquérir la sécurité sociale, qui nos cotisations, qui sont nos cotisations,
tout à fait.
Qui servent à payer les services, qui servent à tout payer. Et ce qu'on revendique, c'est que ce soit géré par nous-mêmes, soit géré par les travailleuses et par les travailleurs. Et ça, c'est aussi une centrale pour la question de l'émancipation de la femme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Morane?
Qu'est-ce qu'on va dire? T'as bien résumé les choses. Voilà, on est venu parler un petit peu de la retraite. On donnait un petit peu nos avis sur voilà, une lecture qui soit un petit peu plus de classe. Anticapitaliste, marxiste. Et puis dire que les femmes, elles sont touchées comme une force... dans un groupe plus général qui est de toute façon le groupe des exploités, des travailleuses et travailleurs.
Une classe.
Voilà, et que les femmes elles vont être exclues encore plus avec la retraite, et parler de ce nivellement par le bas qu'il nous réserve, quoi. Et de dire qu'il faut... il faut pas rester isolé, il faut savoir que qu'il y a des qu'il y a des groupes, qu'il y a des outils,
comme le syndicalisme, tout à fait, pour ne pas rester isolé, pour combattre son exploitation.
Voilà.
Pour quand vous avez des problèmes de licenciement, quand vous avez des problèmes de primes qui ne sont pas payées, il y a des outils. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est par la lutte qu'on arrive à faire les choses. C'est par la lutte qu'on arrive à conquérir des droits sociaux. C'est par la lutte. Et il n'y a rien d'autre que par la lutte. D'ailleurs, en parlant de lutte, demain, on voulait faire passer le message comme quoi il y a une action à 8h30. Donc, c'est le comité PEP qui lance cette action-là. Alors, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Par radio, hein, évidemment, mais le rendez-vous, c'est à 8h30, place Henri Verneuil, dans le 2e arrondissement. Donc ça va articuler à la fois la question du chômage, de la précarité, et puis aussi la question des femmes. Donc venez nombreuses et nombreux, ça va être une lutte qui va être très sympa, ça s'inscrit pleinement dans le moment de lutte actuelle, faut venir.
À la suite, on pourra aussi parler de la venue de Marine Le Pen, qui vient soutenir Stéphane Ravier, mairie du 13-14, quartier nord de Marseille, et là qui va venir nous rendre une petite visite, mais sauf qu'on ne veut pas de sa visite.
C'est vendredi à 18h, mais par contre, le lieu de rendez-vous, je ne le sais pas.
Je ne connais pas non plus.
C'est pas très grave. De toute façon, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous regardez sur Facebook.
Les idées racistes et fascistes.
Sur Internet.
Qui nous passeront à Marseille. À Marseille.
Oui, de toute façon, la lutte antifasciste s'inscrit pleinement aussi dans la lutte contre les retours en arrière que veulent nous imposer Macron et les riches.
Ouais.
Voilà. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée.
Merci les filles. Merci de votre écoute. Vous me recevez là?
Non, ça n'a pas coupé.
Vous me recevez là? Est-ce que là vous me recevez? Oui, vous m'entendez? Le prénom de la copine à côté, s'il te plaît.
Comment?
Ton prénom, c'est comment?
C'est Nour.
D'accord, ok. C'est parfait. Bon, les filles, je vous remercie de votre pour l'émission. Sympa. Et je vous dis donc, on va se revoir. Hein. On se reverra demain et dans les jours à venir pour la suite donc des événements. Voilà, merci à toutes les deux. Et à demain,
merci
certainement.
Daniel.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Salut.